Yannick Fieu, bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez pour le PFL et aujourd'hui vous avez présenté un document très intéressant qui est donc le référentiel foncier. Donc c'est un travail qui comporte trois volets. Tout d'abord, deux mots sur le volet habitat. Quelle synthèse vous faites à l'issue de ce travail?
Très schématiquement sur la question de l'habitat en Soule. Aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a énormément d'offres de lots à bâtir, à la fois de la part des acteurs privés, mais aussi en projet et en intention de projet de la part des élus locaux à travers des lotissements communaux. Et que si on considère par ailleurs que la Soule est en train de stabiliser sa population, au mieux, on peut être un petit peu inquiet dans la mesure où on pense que cette offre est pléthorique par rapport aux besoins. Ensuite, un autre constat qui vient aussi naturellement, c'est qu'il y a énormément de besoins en matière de réhabilitation. On comptait en 2009 un peu plus de 500 logements vacants en Soule. Quand on connaît l'attachement des Soultains à leur patrimoine et à tout ce qui est un peu identitaire, on pense qu'il y a là matière à réflexion et à investissement sous des formes qui restent un peu inventées, mais il y a un vrai sujet de réflexion. Troisième élément qui nous paraît important, qui est celui, et c'est un des trois thèmes qui nous tient à cœur, qui est celui des documents d'urbanisme, dont on sait qu'ils sont quand même la meilleure solution pour gérer les conflits d'usage entre l'agriculture, le développement économique et l'habitat. Or, sur les 36 communes soultines, il y en a une sur deux qui n'a pas de document d'urbanisme et qui continue à se développer au gré des demandes de certificats d'urbanisme, les fameux CU, ce qu'on comprend puisque ce sont des petites communes et qu'elles n'ont pas forcément les moyens pour mettre en œuvre des cartes communales, mais qui par ailleurs génère un peu un développement un peu aléatoire et qui vient renforcer ces conflits d'usage. Donc il y a un travail de fond à faire sur ce deuxième thème également, d'autant plus qu'il va être renforcé par l'obligation qui va arriver à court terme, vraisemblablement, de mettre en place des SCOT, y compris en milieu rural, donc des schémas de cohérence territoriale, qui sont des documents d'orientation qui répartissent un petit peu les richesses et qui traitent à travers l'habitat, l'économique, les déplacements, qui organise, on va dire, un territoire. Et en dehors de ces SCOT, dont l'échéance semble être obligatoire pour 2017, les communes n'auraient plus la possibilité de travailler au CU comme ça, et elles n'auraient plus la possibilité de demander de nouvelles extensions de zones à urbaniser. Donc il y a ça à prendre en considération, et la mise en œuvre du SCOT peut être l'occasion de mettre en œuvre un débat intéressant. Un des derniers donc thèmes après l'habitat et la planification, c'est bien évidemment celui du développement économique. Trois volets à avoir en tête, c'est la création de zones d'activité. Tous ces trois volets là qu'on évoque, ils sont tous consommateurs de foncier, donc le PFL est intérêt au premier égard sur ces questions-là. Sur la question des zones d'activité économique, il y a déjà une politique qui a été mise en œuvre par la communauté de communes à travers la création de trois zones d'activité, voire quatre, sur Espèce, Viodos, Chérotte et La Guinge, pour lesquelles la communauté de communes a mis en place une stratégie de ZAD, c'est des zones d'aménagement différé qui permettent, en cas de vente, à la collectivité via le PFL d'intervenir en priorité pour pouvoir acquérir et mettre en place les entreprises. Donc là, il y a un schéma qui est bien organisé. C'est vrai qu'il y a peu de mutations à l'intérieur de ces secteurs, donc il va peut-être falloir passer à la vitesse un peu supérieure. Donc ça, c'est en cours de réflexion. Mais le schéma d'organisation et de répartition de ces zones, lui, il est acté. Deuxième volet qui semble, toujours en matière économique, prendre de l'importance, notamment en Haute-Soule, c'est celui du tourisme, et notamment du travail sur le volume et sur la qualité de gîtes ruraux qui aujourd'hui semblent plus en difficulté. Alors souvent, quand on aborde cette question, on nous évoque ce qui avait été créé il y a 20 ou 30 ans par un syndicat intercommunal sur la gestion de gîtes ruraux. Pourquoi pas recommencer aujourd'hui avec une maîtrise publique de cette offre pour là un peu la tirer vers le haut et faire bénéficier ainsi tout le territoire d'une attractivité touristique. Donc ça, c'est là également en cours de réflexion. Et puis la troisième volet naturel qui constitue le volet économique, c'est l'agriculture, bien évidemment, dont on constate qu'elle est quand même pour partie en difficulté, notamment dans la zone montagne, alors qu'elle se développe pour tout ce qui est céréaliculture en plaine. Mais bien évidemment, si elle se développe en plaine, elle est fortement consommatrice de foncier et elle vient télescoper d'autres enjeux liés à l'habitat et le développement de zones d'activité. Donc il y a là aussi une réflexion d'ensemble à avoir. L'agriculture qui jusqu'à aujourd'hui était porteuse de majorité d'emplois semble là aussi sur cette dimension-là en perte d'activité. La SAU demeure à peu près stable mais les emplois diminuent. Il y a une vraie question, est-ce qu'il faut compenser les emplois dans d'autres secteurs d'activité? Il va falloir là aussi y réfléchir. La communauté de communes a donc du débat à travers la question foncière à faire avancer et quant à nous EPFL, ce qu'on propose à la communauté de communes, c'est de signer donc une convention d'objectifs 2014-2018 avec un certain nombre de pistes d'intervention foncière permettant à la communauté de communes et aux communes qui la constituent de mettre en place leur projet. Voilà.
On voit que le foncier finalement cristallise un petit peu toutes les problématiques.
Ben, c'est tout à fait naturel puisque de toute façon quoi qu'on fasse on le fait sur du terrain et le terrain il est effectivement une dimension plus que transversale, c'est la première des dimensions à prendre en compte. Alors jusqu'à présent il était moins rare et moins cher donc on s'en préoccupait forcément pas tout de suite, on concevait de grand projet et puis on se préoccupait du foncier après. Aujourd'hui, il faut inverser les choses. Il faut d'abord avoir de bonnes stratégies foncières. Une bonne stratégie, c'est une stratégie qui s'anticipe. Il faut toujours préparer le coup d'après. Donc on est sur nous des plans d'intervention de 5 ans et on demande toujours aux communes de se projeter dans l'avenir. Mais effectivement, le foncier cristallise tous les enjeux que connaît le territoire.
On voit, on imagine qu'il va falloir qu'on change en dessous parce qu'on voit, on est habitué ici à des grandes maisons et là, vous avez évoqué tout à l'heure le fait qu'il manquait peut-être d'appartements, qu'il va peut-être falloir aller davantage dans le collectif. Est-ce que cette révolution, elle sera obligatoire ?
Elle semble inéluctable. D'abord, juste pour rappel historique, les maisons soultines et ailleurs d'ailleurs au Pays Basque, si elles étaient grandes, c'est qu'elles permettaient d'héberger plusieurs générations dans la même famille. Donc on pouvait considérer que quelque part, c'était déjà du logement collectif. Les modes d'habiter, après, ont évolué dans le temps. On est allé vers de la maison strictement individuelle, très consommatrice de foncier. Aujourd'hui, c'est un mode d'extension urbaine qui a vécu. En tout cas, on le voit, nous, sur des secteurs plus tendus que la Soule, mais il a vraiment vécu. Et naturellement, les jeunes reviennent vers des modes d'habiter un peu différents. Donc en Soule, ça prendra peut-être un peu plus de temps sur le modèle individuel, mais on peut parier que dans 20 ou 25 ans, ça posera plus de problème que d'habiter dans du collectif. Le travail qui reste à faire, c'est de faire en sorte que ce collectif soit attractif et corresponde à de nouveaux modes d'habiter. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas tout à fait le cas. Et là aussi, il y a une réflexion en cours avec la communauté de communes et tous les acteurs de la réhabilitation pour essayer d'inventer un nouveau modèle, mais en le rendant attractif.
Ou réhabiliter les bourgs.
Ah là, il y a un enjeu, mais celui-là aussi, il est plus que transversal, puisque l'enjeu de la réhabilitation, donc il est patrimonial, identitaire, on ne revient pas sur ça. Il est foncier, puisqu'il ne consomme pas de foncier, puisqu'il existe déjà. Il est à proximité des réseaux, donc là aussi, il permet aux communes de faire des économies d'échelle sur l'extension des réseaux d'assainissement, d'électricité et d'eau. Ils sont sur place, donc c'est un enjeu multiple, et cette question de la réhabilitation, on arrive vraiment à regarder de très près parce que nous on pense que sincèrement c'est un avenir important pour la Soule et nous PFL on est en train de réfléchir à moduler et à modifier nos modes d'intervention dans le cadre d'acquisition de patrimoine existant pour permettre aux communes de pouvoir réaliser des opérations avec des équilibres financiers plus faciles quoi, parce qu'on sait que ça coûte cher.
Juste pour conclure, vous venez de la côte je crois.
Enfin, nous, le PFL, on
non,
est...
Non, vous...
Ah, moi, je viens aussi pour tout vous dire, je viens de Corse, donc...
Bon, vous venez de loin, et ce travail vous a permis certainement de mieux connaître notre territoire. Qu'est-ce que vous avez appris ou quel enseignement on peut tirer de ce territoire?
Alors justement, quand je dis que je viens de Corse, c'est pas neutre, parce qu'il y a aussi sur notre île un attachement à l'identité et au patrimoine réel. En Soule, je ferai pas de comparaison avec la Corse, mais sur ces questions-là, bien évidemment. Par contre, la spécificité qu'il n'y a pas ailleurs en Pays Basque, c'est cette dynamique démographique qui semble se stabiliser, donc ça c'est plutôt encourageant. Et la grande particularité, c'est qu'il y a un tissu économique qui nous semble très solide, historique, qui est encore vivant, bien que dans le diagnostic, il y a un certain nombre d'alertes qui ont été révélées. Mais il y a un vrai tissu économique. Mais il y a une perte de population. Donc je pense que s'il y a l'économie, on doit quand même plus facilement pouvoir refaire venir des gens habiter sur ce territoire qui, par ailleurs, est quand même très attractif. Ça nous semble être un élément d'optimisme, en tout cas, certain.